Bonjour à tous, bienvenue dans votre grande table et dans l'actualité des idées. Aujourd'hui, vers une presse sans journaliste, on va s'interroger sur la situation de la presse aujourd'hui avec nos invités, le photoreporter Olivier Goujon qui signe ses comptes de journaliste chez Max Milo et Olivier Pilmis, sociologue, auteur de l'intermittence au travail. Ils seront avec nous et notre partenaire Thomas Pitrel de Sopresse à partir de 12h55. Mais d'abord, loin derrière, la vérité de Clouzot, le mythique César et Rosalie de Sautet ou encore La vie de famille de Doyon et droit devant la scène. Samy Fray est seul en scène actuellement au théâtre de l'Atelier pour y interpréter le premier amour de Samuel Beckett entre solitude, simplicité et sobriété. C'est à voir jusqu'au 3 mars à Paris. Il est pour l'heure notre invité à écouter sur France Culture bien sûr ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesper.
I do not ordinarily write for radio, but I think that it is a medium which has not been fully exploited, and that there are great possibilities for writers in this form of expression.
Bonjour à vous, Samy Fray.
Bonjour.
Elle est rare, la voix de Samuel Beckett, très dure à trouver. Il y a cet enregistrement où il parle de la radio et de l'importance de ce médium, mais on y retrouve son grain très particulier. La voix, c'est d'abord le premier signe d'extériorité d'une personne. Tout passe à travers elle, pour vous.
Oui, c'est probablement le résultat d'un long processus de pensée biologique, de vie. On s'exprime par la voix, c'est avec la voix qu'on communique avec les autres.
Vous la travaillez beaucoup, la vôtre ?
Non, je ne la travaille pas, je travaille plus ma mémoire que ma voix. Elle est, je vous dis, elle est le résultat d'une vie.
Elle vous plaît ?
Pas spécialement, quand je m'enregistre et quand je travaille, il m'arrive de m'endormir.
Pourquoi ? Parce que vous la trouvez trop monocorde ?
Non, je ne la trouve pas monocorde, mais on ne peut pas trop s'écouter non plus, parce que ça devient un petit peu lassant.
Premier amour de Beckett. Après la mort de son père, le narrateur doit quitter le nid. Il va trouver refuge sur un banc, où il va faire la connaissance de Lulu, ou Loulou, chez qui il va emménager, avec qui il va avoir un enfant, et dont il va finir par réaliser qu'il l'aimait. Extrait de Premier amour à voir, à écouter, actuellement sur la scène de l'Atelier.
Je voyais un peu mieux sa figure, je la trouvais normale, sa figure. Une figure comme il y en a des millions. Elle louchait, mais cela je ne le sus que plus tard. Elle ne semblait ni jeune ni vieille. Sa figure, elle était comme suspendue entre la fraîcheur et le flétrissement. Alors, je supportais mal à cette époque ce genre d'ambiguïté. Or, quant à savoir si elle était belle, sa figure, ou si elle avait été belle, ou si elle avait des chances de devenir belle, j'avoue que j'en étais bien incapable. J'ai vu des figures sur des photos que j'aurais peut-être pu appeler belles si j'avais eu quelques données sur la beauté, et la figure de mon père sur son lit de mort m'avait fait entrevoir la possibilité d'une esthétique de l'humain. Mais les figures des vivants, toujours en train de grimacer avec le sang à fleur de peau, est-ce des objets ?
Premier amour, c'est un des premiers textes de l'auteur irlandais écrit en français, sa langue d'après-guerre, en 46, publié plus tard en 70. Est-ce que vous y retrouvez, vous, Samy Fray, des traces de la guerre dans ce premier amour, un sens du tragique, une absence d'espoir, une conception particulière de l'homme, de l'humain ?
Non, je dirais que j'y retrouve en gestation, ce que sera son œuvre plus tard. Parce que tout est déjà là, dans Premier Amour. Que ce soit Molloy, que ce soit l'innommable, que ce soit Malone meurt, tout est déjà là, en place. Mais pas raconté exactement de la même façon. C'est surtout ce qui m'a frappé en lisant Premier Amour, et ensuite en m'intéressant beaucoup à Beckett.
Vous dites pas vraiment de la même façon. Quelle autre façon ?
C'est-à-dire ?
Vous dites pas écrit vraiment de la même façon, campé différemment. De quelle autre façon ?
Il y a eu plusieurs cycles d'écriture chez Beckett. Il est allé véritablement vers une simplification. Il est descendu. Il y a la période avant la guerre de Beckett où il écrivait d'une façon assez sophistiquée pour un cercle très particulier, très peut-être un peu snob. Il écrivait pour Joyce, je pense, puisqu'il avait été le secrétaire de Joyce. Et puis je sais qu'il a eu une sorte d'illumination, c'est-à-dire qu'il n'en est plus allé vers le haut en rajoutant toujours, comme Joyce, en beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de choses à l'intérieur de son œuvre, des pièces, des poèmes. Il allait aller vers une chose minimale. Il allait descendre vers le moins. Et ça, c'est venu après une sorte d'illumination, comme Crap dans la dernière bande a cette illumination une nuit. Il a eu cette illumination, pas comme Crap une nuit de tempête, mais un jour, il le raconte dans sa biographie, dont je ne me rappelle plus l'auteur momentanément, où il raconte qu'il a eu cette illumination dans la chambre de sa mère, qu'il allait aller vers le moins et non pas vers le plus, qu'il allait aller descendre et non pas monter.
Premier amour, le titre de ce court roman est un peu trompeur. Hein. C'est du Beckett. On n'est pas dans une veine pastorale ni dans un romantisme lyrique. L'amour façon Beckett, c'est un sentiment étrange. Ce qu'on appelle l'amour, c'est l'exil avec de temps en temps une carte postale du pays, dit le narrateur, qui interroge aussi ces différentes variétés comme une plante exotique que serait l'amour. Comment reconnaître l'amour quand on ne l'a jamais connu? C'est la grande question aussi de ce livre. Est-ce que vous avez la réponse, Samy Frey?
J'ai pas la réponse, mais dans Premier Amour, le narrateur vit cet événement comme une douleur. Une douleur qu'il faut absolument apaiser. Alors comment l'apaiser, cette douleur? Il ne le sait pas exactement. En se rapprochant de la personne, il s'aperçoit qu'il apaise totalement cette douleur et qu'il peut enfin penser à autre chose. Et il n'y a pas... C'est comment éviter l'amour, comment éviter la douleur. C'est un peu comme peut-être dans le bouddhisme, comment éviter le désir, comment passer au-delà du désir. Je crois que c'est comme ça qu'il a vu l'événement. Et surtout, je crois qu'il a voulu faire un texte qui ne soit absolument pas romantique ou romanesque, se diriger complètement de l'autre côté, casser tous les codes du grand amour, du bel amour, et en donner presque une vision, je dirais, animale.
Et il a ces très beaux mots d'ailleurs sur la douleur, votre narrateur, peut-être vous les avez mieux en tête que moi qui n'ai pas le texte sous les yeux, mais il dit ce que je connais bien, ce sont les douleurs, celles de l'entendement, celles du cœur, celles de l'âme, et surtout celles du corps.
Très jolie, celles de l'âme, et surtout celles du corps, d'abord les internes cachées, et puis les externes, en commençant par les cheveux et en descendant méthodiquement. Jusqu'aux pieds, siège des corps, crampes, oignons, ongles incarnés, engelures, trench foot et autres bizarreries.
Vous vous souvenez, vous, Samy Frey, de votre premier amour?
Je ne sais pas si c'est la question. Je me souviens du sentiment amoureux, oui. Je me souviens du sentiment amoureux, de cette chose qui vous envahit, mais elle vous envahit quand vous pouvez être un petit enfant. Vous pouvez avoir des peines d'amour quand vous êtes un petit enfant, pour des personnes, ou du sexe opposé, ou même du même sexe. C'est un sentiment qui naît très tôt, qui naît dans l'enfance.
Le narrateur ici se méfie, il a une méfiance à la fois à l'égard du sentiment, des émotions, mais aussi à l'égard des mots. Il a cette phrase, cette sortie qui est aussi assez piquante, où il dit « le tort qu'on a, c'est d'adresser la parole aux gens ». La parole a des méfaits qu'on n'imagine même pas, Samy Frey.
Lui, le narrateur, envisageait sa vie comme une vie retranchée dans sa chambre, en avec sa robe de chambre et sa chemise de nuit. Il n'envisageait pas du tout une vie extérieure. Et à la mort de son père, il est extrait de cette vie et rejeté dehors avec un petit peu d'argent. Et il va de banc en banc. Évidemment, il n'a jamais eu beaucoup de rapports avec qui que ce soit. Alors le moindre rapport avec une personne cause un trouble extrême, qu'il n'arrive pas à résoudre totalement d'ailleurs. Et je crois qu'il ne résout pas du tout.
Et quel mot trouve-t-il d'ailleurs pour exprimer ici ce qu'il ressent ? Il y a comme une mécanique du cœur, une mécanique biologique qu'il tente de comprendre. Il rattache aussi souvent l'amour à une sorte de besoin primaire, plus que premier d'ailleurs.
Il ne le comprend pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas. Il dit à un moment, je ne me rappelle plus ce qu'il dit exactement, mais il avait lu des livres en français, en anglais, en italien, en allemand, où il en était fortement question. Donc il pouvait nommer ce qui lui arrive, mais la force de ce qui lui arrive est si forte qu'il en est réduit à écrire le nom de sa bien-aimée sur de vieilles bousses de génisse. Des choses comme ça, ou arracher les orties sans en casser la tige, ce qui est une grande douleur. J'ai essayé, ça fait très très mal, ça brûle énormément. Donc il est dans un inconnu qu'il n'arrive pas à résoudre. Et quand il arrive à le résoudre, il s'aperçoit que c'est juste un besoin de présence et pas autre chose. Quand il y a la présence, la douleur s'apaise. Et ce qu'il veut, c'est l'apaisement de la douleur. Il veut pas d'un amour continu avec une personne qu'il verrait tous les jours. Non, il veut simplement la présence, que la personne ne soit pas loin, qu'il puisse la voir. Et quand il la voit, cet amour n'existe pour ainsi dire plus.
Voilà, je l'aimais, c'est le nom de ce que je faisais à cette époque. Je n'avais pas de données là-dessus, n'ayant jamais aimé auparavant, mais j'en avais entendu parler.
J'avais entendu parler de la chose.
De la chose, hein, et notamment dans les romans, comme vous l'évoquez, oui, où il en était fortement question. Oui. Samuel Beckett, vu par Jean-Louis Barrault, Samy Frey, écoutez.
Beckett en dit énormément avec son filet de voix. C'est un élixir, Samuel Beckett est un homme de théâtre très profond, très précis et très efficace. Il vit théâtre. Et son texte est construit comme de la musique, avec des reprises de fugues, avec des rythmes, avec des thèmes. C'est une sonate pour femmes, oh les beaux jours. Le théâtre est un lieu de justice. Ce n'est pas un lieu de conviction, d'idées, de principes. C'est un lieu où on développe la difficulté d'être. Les uns sont amenés à la conclusion du point d'interrogation comme Kafka, d'autres à l'imagerie tout à fait positive et joyeuse de la solution catholique de Claudel, un autre n'atteindra même pas le point d'interrogation comme Samuel Beckett, car sa difficulté d'être était encore plus crucifiée, et un troisième traitera ça par l'absurde. C'est justement le thème central du théâtre qui est la difficulté d'être. La source du théâtre est l'angoisse et la solitude.
Vous qui vivez théâtre aussi depuis longtemps, Samy Frey, est-ce que Beckett a eu pour vous aussi l'effet d'un élixir ?
J'ai beaucoup de plaisir à dire ce texte tous les soirs. Alors, est-ce que c'est un élixir ? Est-ce que ça m'aide à vivre ? Oui, probablement. Je voudrais quand même ajouter une chose. Ce premier amour a donc été écrit en 1945. Beckett avait à l'époque 41 ans. Si je me souviens. Il a été publié en 69-70, il avait 63 ans. Moi, quand j'ai pris le texte, c'est un texte écrit pour un homme jeune. Moi, ce que j'ai fait avec ce texte, je l'ai adapté à un homme âgé, c'est-à-dire moi. C'est-à-dire un homme qui rentre dans une pièce où il a l'obligation, comme une sorte d'éternel retour, de vivre chaque jour ce premier amour et de le raconter. Et que si il le raconte bien, il pourra passer à autre chose. Mais il ne raconte jamais suffisamment bien pour pouvoir passer à autre chose. C'est la façon dont j'ai monté cette pièce. Et je suis parti d'images que j'ai lu de Beckett dans son... Il était dans une maison médicalisée qui s'appelait le Tiers-Temps, où il sortait devant chez lui, il restait assis pendant des heures. Je suis parti de cette image d'un homme, d'un vieil homme assis, et aussi de couloirs d'hôpitaux, où je voyais de vieilles personnes qui attendaient leur diagnostic ou leur futur ou leur ce type d'angoisse là. Et je l'ai fait dans un espace très réduit et très près du public.
Oui, c'est presque un « Je me souviens » façon Perec que vous avez interprété. C'est un homme qui fait remonter aussi les souvenirs, presque au seuil de sa vie. Et il y a cette figure du clochard qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Beckett, aussi dans « Premier amour ». Ici, est-ce que son voyage arrive à sa fin pour vous ?
Non, puisque là, il est dans un entre-deux. On pourrait dire qu'il est dans une sorte de purgatoire. Il est dans ce purgatoire et il doit dans ce purgatoire exprimer encore une fois ce premier amour tel qu'il l'a vécu quand il était jeune et dont il n'a pas pu se débarrasser ou se défaire. C'est comme ça que je vois le montage que j'ai fait. Dans cet environnement, en plus, il est astreint à des signaux aléatoires qu'il ne comprend pas toujours, mais qui lui indiquent qu'il faut partir, qu'il faut aller à un autre endroit et qu'il n'y a pas de discussion possible. Il y a un ordre au-dessus de lui qui lui indique ce qu'il doit faire. Et c'est très important pour la poursuite du récit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il continue son récit contraint. C'est la façon dont j'ai voulu monter ce premier amour.
Par une sorte de gong ou de bip qui revient en permanence, mais qui montre aussi l'enfermement dans lequel il est. Parce qu'on serait presque dans une prison intérieure avec ce son qui indiquerait des moments très réglés d'un quotidien.
Oui, des moments très réglés d'un quotidien et d'une obligation dont il ne saisit pas exactement l'objet. C'est-à-dire, il sait qu'il doit bouger à ce moment-là. Mais pourquoi il doit bouger, ça il ne le sait pas très bien. Mais il le fait, il est contraint de le faire. Et en même temps, il est contraint de raconter encore une fois ce premier amour, peut-être pour la millième fois.
Où respire-t-il Beckett dans ce texte? Où est-ce qu'il marque les respirations? Est-ce que c'est entre les mots? Est-ce que c'est entre les phrases? Comment vous définiriez, Samy Frey, le souffle qui habite ce texte?
Dans le texte proprement dit, il n'y a pas de respiration. Le texte est donné d'un seul jet avec des interruptions. Beckett rentre dans la chose. Il y a un moment, il dit cette phrase a assez duré. Et ça s'arrête. Et ça, ce sont des types de respiration. Les respirations qui existent dans la représentation, c'est moi qui peut-être arbitrairement les ai inclus.
On va écouter la voix d'un autre metteur en scène qui vous est cher, Samy Frey, c'est Claude Régis, louant les vertus du silence.
Le bruit est devenu tellement prépondérant, est devenu tellement envahissant et tellement répandu, au point que je crois que maintenant il y a une espèce de maladie, que les gens sont angoissés, ils sont angoissés par le silence. Les gens vivent aussi avec de la musique toute la journée, en se promenant chez eux, partout, dans les lieux publics, dans les rues, il y a des sonorisations partout, on est sonorisé, et c'est ça qu'il faut essayer d'arrêter, et retrouver la vertu du silence, et de voir à quel point c'est vivant, à quel point c'est généreux. C'est-à-dire à quel point ça parle. Je me suis même aperçu que si on fait du bruit dans une salle avant que le spectacle ait lieu, c'est comme si les murs étaient chargés de bruit et qu'il y a quelque chose qui s'entend de ça. Et que par contre, si on laisse les murs tranquilles, cette tranquillité rejoint évidemment la force secrète du silence. On ne sait pas pourquoi. Une plage de silence fait que la prise de parole est complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'entend pas le texte de la même manière s'il est précédé d'une période de silence. Et on ne le comprend pas de la même manière, on ne le reçoit pas de la même manière. Il n'atteint pas la même région à l'intérieur de nos personnes.
Est-ce que le bruit du monde vous pèse parfois, Samy Frey? Est-ce que vous avez besoin souvent de battre en retraite et de vous mettre en retraite?
Oui, mais enfin, je vis dans le monde, et si je veux m'en abstraire, J'en ai tout à fait la possibilité. Je sais très bien que je ne peux pas arrêter la marche du monde. C'est une des possibilités qu'il y a au théâtre. Je peux faire le silence au théâtre. Je peux arrêter la marche du monde pendant un instant, ou croire que je l'arrête, parce que dehors, il peut y avoir un bruit de voiture qui passe, qui me dérangera, ou quelqu'un qui tousse dans la salle, et qui est navré de tousser d'ailleurs, qui est tellement navré qu'il recommence deux minutes après, parce qu'il ne veut pas s'en empêcher. Mais j'ai évidemment la possibilité de m'abstraire, et le théâtre est un endroit où le silence peut être magnifique, et puis des fois aussi, il peut être pas nécessité, et puis vide. Il y a des silences vides qui sont pas intéressants du tout.
Oui, là, si je vous demandais de nous faire votre plus beau silence, il serait artificiel. C'est très risqué hein, de poser cette question à un comédien. Merci, Samy Frey. Comment se laisse-t-on habiter par un texte? Est-ce qu'il faut baisser la garde, ou au contraire, est-ce qu'il faut être vraiment en tension aussi avec soi-même pour être faire corps avec le texte?
D'abord, il faut l'apprendre. Il y a une phase d'apprentissage qui est assez longue. Pour ce qui me concerne, j'écris. J'écris pendant des pages et des pages pour mémoriser le texte. C'est très très important, la mémoire. Surtout chez Beckett, où l'usage des mots est excessivement précis et peut revenir de façon irrégulière, mais formulé d'une autre façon. C'est-à-dire, je peux dire, j'ai trouvé mes affaires devant la porte. Et cinq minutes après, dire contre la porte. Et il ne s'agit pas d'interférer les mots. Donc il y a un très 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 long apprentissage du texte par la mémoire. Ça, c'est très important. Une fois qu'on a libéré cette mémoire, on peut commencer à rentrer profondément à l'intérieur du texte. Et ça, c'est une autre phase du travail.
Et cette pièce, vous l'avez créée il y a 10 ans, elle ne vous a en fait jamais quitté, ou c'est des moments où vous, quand vous ne la jouez pas, vous la mettez en dehors de vous et vous la reprenez après?
Je l'ai rejouée il y a 3 ou 4 ans, 4 ans je crois, à Lyon.
À Lyon?
Oui, à Lyon. Et ensuite, ça s'arrête. Et là, quand on m'a demandé de la reprendre, ben, j'ai tout repris à zéro. Parce que je ne le savais à peu près plus. Mais curieusement, dans la mémoire, il y avait des fragments, des bribes. Et puis je suis arrivé à recoller toutes les bribes les unes à côté des autres. Et ce qui est intéressant avec la mémoire, c'est qu'on descend beaucoup plus profondément. D'un seul coup, des choses du texte vous apparaissent qui ne vous étaient pas apparues ni la première, ni la seconde fois, ni la troisième fois.
Au théâtre, vous avez travaillé avec Régis, avec Planchon, avec Chéreau. Vous avez interprété ou créé du Racine, du Brecht, du Claudel, du Pirandello, du Pinter, du Duras et beaucoup, beaucoup d'autres. Est-ce qu'à chaque fois, c'est la même méthode de travail, ou est-ce qu'il faut s'adapter à l'auteur et au metteur en scène? Est-ce que le comédien a sa propre manière de faire?
Pour ce qui me concerne, la méthode, c'est d'abord le texte, c'est-à-dire apprendre le texte, mémoriser le texte, et puis se plier aux exigences du metteur en scène, rentrer dans l'univers du metteur en scène, quand il en a.
On va maintenant passer à un sujet plus gai, oui. Qui est présent aussi dans la pièce, extrait.
Alors personnellement, je n'ai rien contre les cimetières. Je m'y promène assez volontiers. Plus volontiers qu'ailleurs, je crois, quand je suis obligé de sortir. L'odeur des cadavres que je perçois nettement sous celle de l'herbe et de l'humus ne m'est pas désagréable. Un peu trop sucrée, peut-être, un peu entêtante. Mais combien préférable à celle des vivants. Des aisselles, des pieds, des culs, des prépuces cireux et des ovules désappointés. Et quand les restes de mon père y collaborent, aussi modestement que ce soit, s'en faut de peu que je n'ai la larme à l'œil. Ils ont beau se laver, les vivants, beau se parfumer, ils puent.
Samy Frey, est-ce que vous appréciez aussi la compagnie des morts? Est-ce qu'il y a des morts qui vous tiennent chaud?
Ce que je voudrais préciser dans la pièce, là, c'est que cette chose que de cimetière que je croyais un peu mise là comme une sorte de provocation, existe chez Beckett. Il a fait un long voyage en Allemagne, et au cours de ce voyage en Allemagne, il raconte ses pérégrinations, qu'il apprenait l'allemand, mais sans avoir véritablement envie d'apprendre l'allemand, mais qu'il apprenait l'allemand quand même. Et surtout, il parle d'un personnage, d'un nom tout à fait magnifique, Hagenbeck. Alors, je croyais qu'Hagenbeck, c'était un nom de théâtre qui était mis là pour... sinon pour faire drôle, pour faire particulier, quoi, Hagenbeck. Hagenbeck existe, et la tombe d'Hagenbeck existe vraiment, et il y a vraiment un lion gravé sur la tombe d'Hagenbeck que j'ai retrouvé. Donc tout ça, ce sont toujours, même dans Premier Amour, et comme dans tout Beckett, sont des éléments de biographie dissimulée. Il y a toujours quelque chose de dissimulé à l'intérieur. Beckett est très 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 à l'intérieur de Premier Amour. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il est très à l'intérieur.
Sur la mort et la compagnie des morts, parce qu'il désacralise aussi ça dans ce texte. Hein. Il enlève la charge, non pas symbolique, mais la peur qui peut entourer ce passage du Styx, en réconciliant presque ce narrateur vivant avec ses morts.
Mais alors ça, vous parliez tout à l'heure de l'époque. C'est peut-être un signe de l'époque, un signe de provocation de l'époque. On provoquait au théâtre à cette époque. Et c'est peut-être un signe dans son écriture de provocation. Quant à l'idée des morts et de la mort, par rapport à lui, je ne sais pas.
Et par rapport à vous ?
Par rapport à moi, c'est privé.
Il est mort en 1989, Beckett, ouais. Il y a 30 ans. Vous l'avez rencontré ?
Je l'ai croisé. Puisque je répétais Le Soulier de Satin au théâtre de l'Odéon, au moment où s'est monté Où les Beaux Jours, c'est-à-dire en 1963. J'ai donc vu la couturière d'Où les Beaux Jours avec Madeleine Renaud. Le décor d'Où les Beaux Jours était descendu dans la salle de l'Odéon. Beckett était là, Blin était là. Et c'était tout à fait magnifique et impressionnant. Il était assez impressionnant, Beckett.
Vous lui avez parlé ? Ou c'est un regret ? Non.
Non, j'étais un petit jeune homme à l'époque. Et je n'aurais certainement pas osé lui parler. Je ne lui ai pas parlé.
Maintenant que vous êtes un grand jeune homme, si il était face à vous, vous lui diriez quoi, Samy Frey ?
Je pense que c'est lui qui me dirait « Je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela ». Je dirais « Oui, monsieur, vous avez tout à fait raison
». Jamais donné tort à Samuel Beckett.
Non.
Merci beaucoup à vous, Samy Frey. Je rappelle que Premier Amour de Beckett, que vous avez mis en scène et que vous interprétez seul en scène, est à voir et à écouter, surtout au Théâtre de l'Atelier, jusqu'au 3 mars à Paris. Merci beaucoup à vous.
C'est moi.